I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole.
Aloïs Sauvage ou le savoir tout faire. Danser, jouer, chanter, écrire, voler même parfois pour qui a eu la chance de l'avoir sur scène. Au cinéma, on l'a aimé dans 120 battements par minute, Les Fauves, Hors Normes, et son premier album, Dévorante, marie la chanson synthétique au hip-hop organique, ou l'inverse. Bref, Aloïse, ce savoir tout faire, c'est une force, une faiblesse, ou les deux à la fois?
Les deux à la fois, évidemment, sinon ce serait trop simple. Moi, je pense que c'est une force. Je suis convaincue de ça au plus profond de moi-même. J'ai envie de le défendre, c'est ce que je fais, puisque je le fais, donc je l'incarne, je le vis. Après, bien sûr, techniquement, au quotidien, c'est parfois une faiblesse. Et puis, à un endroit que je pensais pas, c'est parfois dans les yeux des autres, c'est défini comme une faiblesse. Parce que ça voudrait dire que je ne pourrais pas être au sommet, entre guillemets, dans plusieurs choses à la fois, ce que je ne comprends pas. Ça voudrait dire que c'est comme de l'éparpillement ou... En tout cas, je ne pourrais pas être bonne dans plusieurs espaces à la fois. Mais bon, moi, quand je ferme les yeux, je peux être à la fois dans le ciel, en haut de la montagne, ou sur la terre, ou dans un lac. Je vois pas où sont ces délimitations-là, je les comprends pas, et parfois, c'est un peu pesant. Mais, mis à part ça, je reste convaincue que c'est une force, en tout cas, que ce soit une force ou une faiblesse, c'est ma vie.
Mais justement, c'est ta vie. Même si tu incarnes tes personnages, que ce soit devant la caméra ou derrière le micro, tu es toujours extrêmement honnête. Refuser les faux-semblants, ça a toujours été ton leitmotiv.
Oui, parce que je te remercie de parler d'honnêteté. Je pense effectivement que c'est quelque chose qui me caractérise. En tout cas, je crois que je ne mens pas en fait dans tout ce que je fais. Et puis, c'est drôle parce que on va prendre un exemple typique du cinéma en incarnant des personnages. Finalement, ça me permet de mieux me connaître moi. Quelque part, quand on n'est que soi, par exemple, en musique, je le vois avec ma petite expérience, on va dire, de ces quelques années-là. Je suis moi, mais je reste quand même... On peut pas tout voir de moi en un concert ou en un clip. Donc, même en musique, quand on dit que c'est plus sincère que d'incarner des personnages au cinéma, enfin, sincère dans le fait que tu te livres plus, je l'entends dans les textes, bien sûr, dans la musique, je le comprends. Mais même là, finalement, que je le veuille ou non, le regard de l'autre va me définir quelque part et va m'orienter. Je vais presque devenir un personnage de moi-même, même en étant la plus sincère possible. C'est une réflexion que j'ai eue récemment. Que oui, en fait, moi, je crois, ça rejoint le savoir, entre guillemets, tout faire, que tu introduisais tout à l'heure, que l'être multiple, c'est être pleinement soi. On n'est pas qu'un ou qu'une. Aujourd'hui, tu portes une jupe, un chemisier. Demain, tu pourras être en jean basket. Pourtant, tu es la même personne. Et pourquoi devrais-tu porter une jupe tous les jours? Tu vois, c'est pareil. Et c'est aussi des choses qui, moi, me révèlent à moi-même. En tout cas, c'est ma méthode. Par exemple, en octobre dernier, j'ai joué dans une série qui sortira à l'automne. Et pour cette série, le réalisateur voulait que j'ai une chevelure différente, plus peroxydée, plus blonde, enfin une décoloration. J'avais jamais fait ça. J'avais jamais osé, j'avais jamais voulu être différente à ce niveau-là. Je sais pas, j'osais pas en fait. J'étais brune et voilà. Et c'est drôle, quelques mois plus tard, puisque là, on se parle, on est à l'été 2021, je suis toujours blonde parce que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, donc j'ai voulu y goûter un peu plus et le garder. Alors, j'ai fait d'autres films comme ça en étant blonde, entre guillemets. Et puis, je vais voir jusqu'à quand ça reste comme ça en moi. Ça m'a amené une autre posture, une autre façon de bouger, peut-être de me regarder. C'est hyper intéressant, en fait. Et ça a été permis par le fait d'incarner une jeune femme qui s'appelle Charlie dans la série, qui n'était pas Aloïs, certes, mais depuis Charlie, j'aime être blonde et je mets du vernis sur mes doigts de temps en temps. J'aime ça.
Ton corps, de tes orteils à tes cordes vocales, c'est ton moyen d'expression. C'est ton outil de travail.
En quoi il est important pour toi, ce corps? Comment tu vis avec? Comment tu évolues avec?
En tout cas, tu as raison sur le fait que mon corps est très important pour moi et je le vois d'autant plus que depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé la musique, en tout cas, qu'elle a pris vraiment beaucoup de place. On va dire que oui, ma vie s'est axée autour de la musique et du cinéma. Parce que avant ça, j'étais davantage danseuse et circassienne. Donc, dans des spectacles de chorégraphes ou de metteurs en scène qu'on tournait, à travers la France et en Europe. Où là, en fait, la question se posait pas. Enfin, mon corps était tellement mon outil de travail. Enfin, je le chauffais et je l'étirais du soir au matin. Avant ça, je suis passée par l'Académie Fratellini. Plus avant ça, une école de cirque préparatoire à Lille. Donc, c'était presque du haut niveau, en fait, avec le recul, tu vois. Et c'est marrant parce que depuis 3 ans, bien sûr, comme tu le dis, si les gens viennent me voir en concert, ils verront bien sûr que je suis quelqu'un de physique qui est sensible à la performance et au fait que de toute façon, que je le chorégraphie ou pas, mon corps bouge tout seul. Mais c'est moindre par rapport à la pratique que j'avais avant, qui était tellement énorme avec le recul. Et du coup, je me rends compte que depuis 3 ans, cherchant un peu les espaces, les interstices comme ça pour lui faire du bien à ce corps, parce que je passe plus de temps en studio ou en tournage où j'ai un corps plus statique qui se rouille plus facilement, quoi. Eh ben, ça joue vachement sur mon moral, mon mental. Et je vois une neuropsy qui me suit, qui m'accompagne, voilà, dans un travail thérapeutique qu'on peut avoir à différents moments de sa vie. Et à chaque fois qu'elle me voit dans des états qui sont un peu plus tristes que d'habitude, on va dire, elle me dit « Aloïse, faut que tu danses. » Je te l'ai déjà dit, faut que tu danses. Bon, elle aimerait que je danse au moins 1 heure ou 2 heures par jour. Mais elle a raison, c'est vrai. À chaque fois que mon corps vraiment expulse tout ce qui ne va pas et surtout... irradie, quoi, de son expression, les choses vont beaucoup mieux dans ma tête.
Dans une de ces bandes dessinées Instagram, ta sœur Clémence raconte une petite amourette d'enfant. Et plus tard, le garçon lui dit qu'il est gay et qu'il est très heureux de l'être. Et dans sa petite tête, on dirait un passage du film Vice Versa, plein de ces figurines, on va dire, de sa conscience et de son inconscient d'ailleurs, se disent « bon, quand est-ce qu'on lui dit ?» quand est-ce qu'on l'informe de son homosexualité? Et dans un podcast, il y a quelque temps, tu as parlé de ton coming out et qu'au final, tu l'as fait en même temps que ta sœur,
oui,
quasiment.
Oui, complètement. En tout cas, en essayant de résumer, effectivement, j'ai pris la parole pour la première fois de manière publique. En tout cas, bien sûr qu'on le savait plus ou moins et que j'en parle déjà dans mes chansons, mais je mettais quand même toujours un voile de pudeur par rapport à ça dans les interviews. Par rapport à mon premier EP, Jimmy, je rentrais pas dans le détail. Voilà, j'étais pas à cet endroit-là, j'étais pas encore prête, je pense, à un endroit, parce que ce que je vivais était encore assez récent. Et j'avais peur de tout ça, d'en parler comme ça, en tout cas, que ça. Alors que maintenant, bon, on grandit, je crois que c'est tellement nécessaire et totalement indispensable. Mais j'avais peur de ce côté politiser mon discours artistique. En fait, on est obligé, enfin, je crois, maintenant. Donc, je l'ai fait dans ce podcast. Et puis oui, en tout cas, ce soir-là où j'étais dans la voiture avec ma petite sœur, donc j'ai 4 ans de plus qu'elle, Clémence, où elle me disait en gros que ma cousine se posait des questions au sujet de ma relation avec cette fameuse Jimmy. Et alors qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'on soit des meilleurs amis fusionnels. À ce moment-là où je lui ai dit qu'effectivement, c'était plus, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle aussi, en fait, elle traversait ça. Ses premiers émois émotionnels qui étaient un peu plus chaotiques à cette époque-là. Que les miens, enfin, elle n'était pas dans une relation réciproque, quoi, on va dire, d'amour. C'était avec une fille, quoi. Donc, ce jour-là, je me rappelle comme c'était hier, dans cette voiture. C'était très émouvant. Bon, on était déjà liés, mais effectivement, c'est forcément un sujet qui nous lie. Et puis, moi, je suis chanteuse et comédienne, et elle, comme tu le disais, elle est illustratrice, elle est dessinatrice. Elle est au début de sa jeune carrière, mais le jour où elle va publier, éditer ses ouvrages qui parleront forcément de ça, en fait, sous couvert d'humour et d'émotion, comme tu le disais, elle le fait très, très bien. Ça va être exceptionnel.
Dans une note de ses bandes dessinées pour Instagram, Clémence raconte aussi un moment de son adolescence où elle a été brimée par un garçon. Et elle raconte à quel point tu as su prendre sa défense, remettre le garçon à sa place. Et tu sembles vraiment super grande sœur, invulnérable. Tu as toujours eu ce réflexe-là de protéger les personnes que tu aimes?
Oui, je pense. En tout cas, j'ai toujours été une sorte de... Enfin, en toute modestie, mais une sorte de leaduse, tu vois, qui, dans son énergie, avait de la conviction pour 12, quoi. Mais en tout cas, oui, et encore aujourd'hui, bien sûr, on a des parcours artistiques différents. mais qui sont sujets aux mêmes doutes, aux mêmes angoisses, aux mêmes traversées du désert aussi à des endroits. Et effectivement, je le vois avec ma sœur, j'ai toujours ce rôle-là de, bien que je les traverse aussi, et qu'elle soit là pour me soutenir, je suis toujours là pour la sortir d'un hypothétique trou noir dans lequel elle se trouve à ce moment-là, parce que forcément aussi, en fait, c'est toujours plus simple quand on est dans le regard extérieur que quand on est soit en train de se noyer dans un verre d'eau ou pas, d'ailleurs, des fois dans un océan, mais c'est toujours plus simple quand on voit de l'extérieur avec le recul, voilà. C'est plus simple pour moi de dire à ma sœur, t'en fais pas là. Là, c'est un stress, mais je crois que t'as pas conscience de ton talent et de ce que t'es en train de fabriquer.
La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage. Voilà, c'est une formule de Gloria Steinem sur laquelle je fais rebondir toutes mes invitées. Qu'est-ce qu'elle réveille en toi?
Oui, ça me parle, évidemment. Encore plus avec ce que je traverse actuellement, parce que voilà, il y a pas mal de remue-ménage intime et de prise de recul dans là où j'en suis artistiquement et de ce que j'ai envie de fabriquer, quoi. Voilà, à travers mes poésies, mes pensées, mes déflagrations, quoi. Que ce soit dans le cinéma ou la musique. Ça me parle parce que être libre, c'est être au plus près de sa vérité à soi. C'est logique en soi, mais c'est dur. Parce qu'en fait, au quotidien, tout le temps, notre vérité à nous, elle est bousculée. Elle se fait taire par nous, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on l'écoute pas assez, parce qu'on la rend silencieuse. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, toute notre vie, on essaye en fait de gratter, d'enlever les couches qu'on a accumulées en devenant quelque part adulte et en se confrontant à la société, là, à ce truc, à ce petit monde qu'on s'est tous créé main dans la main de manière plus ou moins consciente, en tout cas, voilà, pour se sentir exister sur Terre, alors que clairement, ça n'a pas de sens et que ça paraît... Je pense que c'est difficile de vivre sur Terre si on est face à ce vide abyssal constamment, qui est aussi notre réalité humaine, mais il faut bien s'inventer des tas de choses pour faire en sorte que voilà cette vie soit supportable, entre guillemets. Pardon, c'est très dramatique, mais je le vois pas comme ça, hein. Je le vois comme le fait qu'on est tiraillé entre plein de choses en tant qu'être humain. Donc voilà, je veux dire que c'est pas dramatique ou déprimant ce que je dis. C'est encore une fois, il s'agit d'équilibrer pour voilà voir sa lumière. Mais donc voilà, on passe, je pense, notre vie à gratter et à essayer d'écouter sa vérité, et on y arrive mieux que d'autres, parfois dans des moments différents de vie, à des phases, on s'écoute plus que d'autres. Donc, et à des moments comme ça, c'est difficile de s'arracher à ce qu'on croyait être quelque chose qui nous allait et qui en fait n'est pas totalement notre vérité. Donc, c'est douloureux en fait. C'est douloureux de s'arracher à quelque chose pour après, avec le recul ou à l'instant T où on le fait, être plus libre et donc être plus proche de sa vérité. Mais pas évident, c'est pas évident.
Oui, tout ce que tu dis me fait penser très fort à Connexion, le livre dont tu vas nous lire un extrait. De Kate Tempest, qu'on a connue sous le nom de Kate Tempest, chanteuse, performeuse, poète britannique, qui donc maintenant écrit sous le nom de Kay, K-A-E, Tempest. Et c'est un très beau livre qui s'appelle Connexion, qui a récemment été publié chez L'Olivier. Donc, tu vas nous lire un extrait.
Avec grand plaisir. Et c'est vrai que ça a fait écho à ce que j'ai tenté de développer mon cerveau. Mais oui, en tout cas, juste avant de commencer à lire cet extrait qui se situe vraiment à la toute fin de cet essai, de cet ouvrage, je sais pas comment l'appeler. Je le conseille vraiment à tout le monde. Ça parle évidemment de création artistique, de connexion, mais surtout, pardon, de connexion justement entre les êtres humains et vraiment, il m'a bouleversé. Ce livre, il m'a fait beaucoup de bien, donc je vous le conseille à tous et à toutes. On ne peut pas tourner rond dans ce monde si on vient d'un autre monde. On ne peut pas tourner rond non plus en se fermant à l'autre. Sinon, on manque d'air, on suffoque. L'essence s'émousse, ce qui peut perturber. La vie s'écoule, mais rien n'a un écho plus profond. En dehors de la secousse primale de la naissance ou de la mort, aucune expérience n'a l'intensité nécessaire pour ancrer une personne à un parcours de vie qui a du sens. Sans objectif clair, les jours sont noyés de lumière, reflets vides d'eux-mêmes, ou alors un enchaînement sans fin de tâches à effectuer. Des trucs qu'on fait machinalement. Des trucs dont on jouit machinalement. J'aime telle ou telle chose parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vais faire telle ou telle chose parce que c'est ce qu'on a toujours fait dans ma famille et que c'est ce qu'on attend de moi. Tout ce temps, l'esprit des profondeurs est ignoré, muselé, pas pris en compte une seule seconde. Paradoxalement, on peut avoir une présence numérique et afficher une identité plus profonde tout en négligeant les facettes qui construisent cette identité. On peut rapprocher cela de l'acquisition des marqueurs attestant d'une vie réussie. Une voiture de luxe, des symboles de statut social, un partenaire séduisant, plusieurs partenaires séduisants. des tas de gens qui savent comment on s'appelle, des fringues à la mode, une maison parfaitement entretenue, des enfants qui connaissent leur table de multiplication par cœur, une maman dont on prend soin chaque jour, des voisins qui nous considèrent comme un citoyen exemplaire, la messe qu'on ne rate pour rien au monde, tout ce qui peut nous combler. Rien ne nous oblige à nous investir dans l'art pour éprouver de l'empathie ou accéder aux profondeurs. Il est possible d'accéder aux profondeurs universelles par le truchement de l'art, ce qui a été mon cas, mais il est faux de dire que le dessin ou l'écriture favorise systématiquement une connexion de qualité. Se consacrer à une discipline artistique, comme le reste, peut sembler déconnecté du réel, fastidieux, rébarbatif. Alors comment faire évoluer le regard qu'on porte sur le monde ? Jung conduisait ses rituels nocturnes au moyen de mots et d'images. Georgie Yeats préférait la transe et le spiritisme. Mike Tyson fumait de la DMT, une substance psychotrope sécrétée par un crapaud qu'on croise exclusivement dans le désert de Sonora, et sa vie a été métamorphosée par ce qu'il décrit comme la mort de son ego. J'ai réalisé que je n'étais rien. Il conclut ainsi. Sur le moment, j'étais heureux. Il existe de multiples façons d'accéder à une zone qui entre en résonance avec toi. Voilà.
Dévorante, c'est le nom de ton album, et c'est aussi ce que sont tes histoires d'amour. Tout à l'heure, on parlait du temps que tu avais mis à parler, à évoquer le fait d'être amoureuse des filles. Aujourd'hui, tu sembles libérée de la crainte du jugement. Et est-ce qu'on peut dire même que tu chemines vers un certain militantisme, sachant que tu feras d'ailleurs partie du jury de la Queer Palm à Cannes?
En tout cas, j'accepte d'en être une représentation, puisque c'est ce que je suis. Je suis une artiste, voilà, une jeune femme, blanche, qui vient de banlieue parisienne et qui est lesbienne. C'est ma vie. Et rien qu'en la décrivant, rien qu'en en faisant des chansons, rien qu'en acceptant, j'irais même pas assumer maintenant, puisque assumer, c'est comme si on en avait honte. Oui, quelque part, je deviens une représentation de ces identités qui sont encore laissées sur le côté, encore trop tues, quelque part. Et le fait de partager mes chansons, alors même que j'étais simplement en train de le vivre moi personnellement, intimement, et que j'avais besoin de l'extérioriser, je me suis rendu compte à quel point ça avait un impact, bien sûr. Puisque tous les messages que j'ai reçus de ces personnes, de 11 ans à 75 ans, qui me racontaient leurs histoires et qui me disaient ô combien ça leur faisait du bien d'avoir des représentations diverses et variées de personnes, donc dans mon cas lesbiennes, puisque je peux parler que de mon cas à moi, que ça leur permettait, eux, de légitimer, ce qui est triste, hein, quelque part, mais de légitimer leur identité à eux, leur existence, quoi. Donc, je crois que plus on est de porte-parole, moins on va l'être, finalement. Je pensais que ce serait possible autrement et j'avais peur de cette mise en avant parce que devoir être un porte-drapeau, devoir avoir l'étiquette d'une militante, alors que moi, des militants, j'en connais. Et ce travail, il demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force et il est sujet à beaucoup de violence. Et moi, je crois pas que dans mon canapé, moi qui écris, je pouvais prétendre à ce rôle-là. Oui, j'ai un pouvoir entre les mains quelque part. J'avais pas pris conscience, en tout cas, que juste le fait de délivrer ma parole personnelle pouvait résonner autant et servir le plus général, peut-être. Mais le plus général, en soi, ce ne sont que des individualités additionnées. Donc voilà, en fait, je parle en mon nom et si ça fait écho, tant mieux. Je continuerai à le faire avec grand plaisir et avec, je crois, beaucoup plus de force à mesure que, voilà, j'ai de place et de visibilité, on va dire, dans un espace un peu plus visible, médiatique, quoi. Il faut que j'en prenne soin, voilà. Pour tous ces gens-là.
Et tes prochaines chansons, je sais que tu commences un petit peu à y penser, à côté de tes tournages. Tu vas continuer à parler d'amour ?
Ah bah oui, hein. C'est sûr, l'amour de toute façon. De toute façon, que ce soit l'amour... Enfin, je pense qu'on ne parle que d'amour, finalement, quand on fait des chansons, par rapport à une relation naissante. Quand on parle de perte d'amour, que ce soit le deuil de quelqu'un qu'on perd, le deuil d'une relation, quand on parle d'amour de son énergie, de ses passions, en fait, on n'est que dans explorer, en fait, cette grande thématique. Donc, oui, bien sûr, je parle beaucoup d'amour dans mes chansons. Il y en a beaucoup déjà que j'ai déjà écrites et d'autres à venir pour la suite. Donc, oui, ce sera un thème, je pense, qui sera abordé en long, en large et en travers, mais sous différents aspects.
Et on a commencé avec un contraste, on termine avec un contraste. J'ai un peu regardé la signification de ton prénom, donc, qui est d'origine germanique. Alewis, donc ce côté tout, et ce côté sage, et à côté de ça, c'est cette hypersensibilité que, voilà, qui fait partie de toi, que tu ne caches pas, qui nourrit d'ailleurs ta créativité très clairement. Comment on réussit à faire un mélange, tout ça qui donne à Aloïs Sauvage ?
C'est vrai que Aloïs, il y a de ça. J'avais lu aussi que, donc, ça venait que c'était d'origine germanique et que ça voulait dire combattante, persévérante. Ça me plaît. Et puis oui, mon nom de famille, c'est Sauvage, donc... Mon nom de scène, c'est mon nom dans la vie. Donc, il y a encore une fois pas vraiment de protection de moi jusqu'au public. Je crois que c'est la vie, comme on dit, honnête, comme tu disais au départ, que j'ai choisi de mener. Donc voilà, mais Aloïs Sauvage, donc oui, la sagesse, entre guillemets, et la sauvagerie, c'est tout, moi. Les paradoxes et les déséquilibres et les extrêmes. Toute ma vie, j'essaierai de trouver l'équilibre. En suis-je capable ? Est-ce que finalement, ma vie ne sera faite que de déséquilibres qui sont joyeux, quelque part ? Quand ils ne sont pas dans les profondeurs abyssales de la tristesse, on verra bien.
Merci Aloïs.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.